France Info.
Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Fabienne.
Avec Gilles Bornstein et Guy Verhaeghe également, notre invité ce matin est président du parti Solidarité et Progrès, candidat à l'élection présidentielle.
Bonjour Jacques Cheminade.
Oui bonjour Jean-Michel Apathy.
Un attentat a été déjoué hier, deux hommes ont été arrêtés par la police à Marseille. Ils envisageaient de mener une action contre les principaux candidats à l'élection présidentielle. Je vous propose d'écouter le procureur de Paris, François Molins.
Ces deux hommes se préparaient à mener une action violente de manière imminente sur le territoire national, sans que l'on puisse toutefois, en tout cas à ce stade, déterminer avec précision le jour, là où les cibles visées, ou encore les circonstances exactes de leur passage à l'acte.
Voilà une menace sur la campagne présidentielle. Comment avez-vous réagi à l'annonce de cette information, Jacques Cheminade ?
Bien, je salue d'abord les forces de police et de gendarmerie, mobilisés 24 heures sur 24, pour certains même s'ils ont des centaines de milliers, voire des millions d'heures supplémentaires qui leur ont pas été payées, et ils sont quand même sur le terrain, partout. Les officiers de police judiciaire négligés, qui font pourtant leur travail. Donc je salue toutes ces forces-là. C'est la politique de veille, d'infiltration, de renseignement qui est tout à fait essentielle et qu'ils la poursuivent. Et je vois que la sûreté intérieure et la sûreté extérieure commencent à collaborer dans cet effort. Et l'exemple que je vois de cela, c'est que le fameux Clément B appartenait à la cellule de Verbiest, apparemment en Belgique. Donc il y a une collaboration aussi à l'échelle européenne de l'Europol et en général qui a une réflexion sur ces questions. J'ajouterai simplement une chose, c'est que pour en amont, étudier cette question du djihadisme, de ce qui se passe, de l'islamisme, il faut réunir des gendarmes, des policiers, des universitaires, des éducateurs, tout ce qu'il y a, des magistrats, tout ce qu'il y a à connaître dans ce domaine, et faire remonter les choses jusqu'au Premier ministre et au Président de la République. C'est fait, on a une bonne loi, celle du 21 juillet 2016, il faut lui donner plus de substance.
Les informations que la police détenait datent de la semaine dernière et des policiers disent que certains candidats ont été avertis de la menace qui pouvait peser à la fois sur eux, donc sur le déroulement de l'élection. Vous en avez été prévenu, vous, la semaine dernière, Jacques Cheminade ?
J'en ai été prévenu à un certain moment, pas au départ, parce que les menacés apparemment étaient François Fillon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je salue ceux qui ont été menacés. Ce sont mes adversaires, mais ce ne sont pas mes ennemis. J'ai un seul ennemi, vous le savez bien, c'est la finance.
Est-ce que le gouvernement en fait
assez... Oui, on le découvre pas en même temps, mais on va en reparler.
Est-ce que le gouvernement en fait assez en matière de lutte contre le terrorisme ? François Fillon a laissé entendre hier que rien n'avait été fait. Est-ce que vous, vous diriez que le gouvernement fait son boulot ?
Il n'en fait peut-être pas assez, mais il a fait des choses. Et je crois que Bernard Cazeneuve, lorsqu'il était au ministre de l'Intérieur, a eu, un assez bon... rapport avec le défi qui nous est jeté.
Mais vous le mettez dans la case crédit. S'il faut mettre une case des plus et des moins de ces 5 ans, vous mettez le terrorisme, la lutte contre le terrorisme dans la case succès, crédit pour François Hollande ? La lutte contre le terrorisme, est-ce que vous le mettez dans la case succès pour François Hollande ? Est-ce que vous diriez sur
dans la case demi-succès, oui, c'est une chose dans laquelle il a porté une attention. Ceci dit, je pense que notre politique internationale, elle, qui est un élément de cette lutte contre le terrorisme, a été insuffisante. J'ai été tout à fait soutenu l'intervention au Mali pour arrêter les djihadistes qui descendaient sur Bamako, mais on n'a pas fait une politique de développement dans la région. La Fagibine qui est les 5 ou 6 lacs du Nord sont à sec, et si on ne fait pas une politique de développement, ben on n'arrêtera pas le djihadisme, parce que le djihadisme prospère sur la misère et l'absence de développement. Donc on doit faire une politique de développement dans ces pays-là. On ne la fait pas parce que on est dans les restes de la France-Afrique, et en particulier, je pense qu'il faut arrêter le franc CFA. On doit en finir avec cela et laisser les pays africains à leur souveraineté nationale, tout en leur fournissant les moyens de leur développement.
Vous indiquez dans votre programme qu'il serait nécessaire d'en finir avec l'état d'urgence. Ce qui s'est passé là vous amène à réviser votre position ?
Non,
ou pas,
parce qu'on a un faux vrai état d'urgence. C'est un peu comme dans le temps, le passeport de M. Pasqua. Faux vrai. Voilà. Faux vrai pourquoi ?
C'est une vieille histoire.
C'est nos auditeurs et nos spectateurs les plus anciens qui s'en souviennent.
Les plus anciens, je m'adresse aux plus anciens. Donc, dans le faux vrai. On est dans le faux vrai parce que s'il y avait l'état d'urgence, on n'aurait pas dû faire l'euro ou le faire autrement. l'euro de football. On l'appelle l'euro. Hein. Avant, c'était la Coupe européenne des nations. Maintenant, ça s'appelle l'euro. Bon, en tout, on a réduit les choses. Et il aurait fallu aussi ne pas laisser le 14 juillet être organisé, comme ça a été à Nice, avec des défauts dans la sécurité.
L'état
Donc, il faut savoir, si on a l'état d'urgence, on l'applique.
On a l'état d'urgence.
Oui, mais on l'applique.
On peut l'appliquer intelligemment. On n'est pas obligé de tout annuler.
On peut l'appliquer. Vous savez,
parce qu'on aurait pu annuler l'élection présidentielle aussi à ce moment-là.
Et tous les meetings.
Non, on n'annule pas une élection présidentielle.
Alors les meetings,
mais on demande aux candidats de faire preuve d'une certaine retenue. Moi, ne serait-ce que pour les autres. Hein. Le risque, moi, c'est pas une chose qui me fait m'empêche de dormir. Mais je reste chez moi parce que je pense que si un des candidats était dans l'impossibilité de se présenter, soit blessé, soit tué, eh ben, l'élection serait reportée. Ne serait-ce que pour les autres, je prends soin de moi-même. Et je pense que les candidats qui refusent la sécurité et qui sont dans un état de droit et qui ont participé à la présidentielle sont tout à fait incohérents.
Bon, en tout cas, vous maintenez la demande de lever de l'état d'urgence qui vous semble inutile, c'est ce que vous voulez dire.
Elle est inutile à condition qu'on donne de la substance et qu'on applique clairement la loi du 21 juillet 2016.
S'il y avait une mesure supplémentaire appliquée dans la lutte contre le terrorisme, quelle serait cette mesure ?
La mesure, ce serait une qu'on a commencé à faire, c'est le renseignement dans les prisons, et l'autre, ça serait de suivre de plus près les choses dans les prisons, parce que c'est là que se nouent beaucoup des choses. Donc il faut mieux traiter les gens dans les prisons, d'une part, et d'autre part, pas les mettre tous ensemble pour qu'ils continuent leur type de relation. Il faut les suivre de près, et pour ça, il faut à la fois avoir plus d'agents de probation et de réinsertion, et en même temps, plus de renseignements à l'intérieur des prisons. On a mis quelqu'un de la DGSI dans les prisons, auprès des prisons, pour faire ce renseignement, mais il faut aller plus loin.
D'accord.
Et on se retrouve dans une minute, tout pile, il est 8h40 sur France Info, l'essentiel avec Victor Mattey.
Des armes et des explosifs prêts à l'emploi retrouvés hier au domicile des deux suspects à Marseille. Les détails de l'attentat déjoué avant la présidentielle. Attaque violente et imminente d'après la justice. Plusieurs candidats auraient fait partie des cibles potentielles. Une vidéo montrant des armes et un journal avec en une François Fillon. Dans ce contexte de menace, la campagne se poursuit. Le candidat de la droite à Lille hier soir avant une visite commune avec Alain Juppé tout à l'heure. Le socialiste Benoît Hamon, lui, était à Toulouse avant un grand rassemblement à Paris ce soir, place de la République. Il avait été en 2014 le ministre le plus éphémère de toute l'histoire de la 5e République. Thomas Thévenot et sa phobie administrative en procès à Paris aujourd'hui. L'ancien secrétaire d'État est poursuivi pour fraude fiscale. Et puis il faudra attendre plus de 500 ans pour revoir un astéroïde aussi gros, 600 mètres de diamètre, frôler la Terre. Il sera visible à 23h23, très précisément ce soir, avec un télescope.
C'est Jacques Cheminade qui est avec nous ce matin sur France Info jusqu'à 9h. Question Guy Birenbaum.
Vous avez parodié il y a quelques instants le discours du Bourget de François Hollande en nous disant que votre ennemi c'est la finance. Nous, c'est votre affiche qui nous a un peu étonnés puisque le slogan qui est inscrit dessus est le suivant. Se libérer de l'occupation financière. Le mot occupation sur tous les murs de France, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu choquant ? Et qui nous occupe ?
J'espère bien que c'est
qui
choquant.
Qui nous occupe ?
On a une occupation qui va par secteurs successifs. Quand on a payé 1400 milliards d'intérêts depuis les années 70, et on a emprunté pour payer ces intérêts, on est dans un système d'occupation. Quand on a laissé aux banques casinos, aux grandes banques, le privilège de financer l'État, et qu'on a supprimé la possibilité pour la Banque de France de faire des avances, on s'est livré à ces banques. Même
l'occupant,
modéré,
c'est la banque.
Comme M. Fitoussi vous le dira.
L'occupant, c'est la banque.
L'occupant, non, c'est pas la banque. Alors, c'est un type d'organisation financière dans laquelle se sont insérées les 28 plus grandes banques du monde. Et ça, ça crée un système. Et ce système, tout le monde parle de système, hein. Ce système,
c'est-à-dire
il faut être précis.
La planche à billets avait pourri un peu la confiance, quoi. Fabriquer de l'argent sans fabriquer de la richesse, ça ne paraissait... ça ne paraissait pas durable. Donc,
mais ce
du
que
coup,
fait Mario Draghi du coup, à tour de main.
Oui,
pour clic, pas par la planche à billets, par des clics, c'est encore pire.
Pour éponger la crise financière.
80 milliards.
Je parlais de la réforme des années 70.
Ça crée moins d'austérité.
Je parlais de la réforme des années 70, c'est-à-dire qu'on a rationalisé un système. Alors, voilà, les banquiers aident quand même les États à finir leur fin de mois. Donc,
oui, mais ça
ils ne font pas qu'occuper, ils aident aussi.
Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être les États qui prennent la responsabilité du crédit public.
Oui, de fabriquer des billets.
Disait Jaurès, un crédit public national est la solution aux questions sociales. Il le disait déjà en 1892. Mmh. Donc ça fait longtemps qu'on y pense. C'est ce que disait Henri Germain aussi, à l'époque du Crédit Lyonnais. On a toute une histoire en France qui est celle d'un crédit national public qui doit alimenter l'économie. Ah, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce crédit. Mais en réalité, en économie, qui détient le crédit détient le pouvoir. Et le crédit a été utilisé...
C'est les banques qui nous dirigent ?
Pour se créer des clientèles, pour se créer des affidés, et pas pour développer le pays.
On va écouter Nicolas Dupont-Aignan, qui est lui aussi candidat à l'élection présidentielle. Il était notre invité hier, et il a sur les banques une analyse finalement qui n'est pas très éloignée de la vôtre. Il en tire une
A pris connaissance de mes écrits.
Sans doute, il vous a copié, et il en tire une conclusion que vous tirez vous aussi peut-être. On écoute.
Les banquiers ont des candidats dans cette campagne pour maintenir cette
escroquerie.
Qui est
le candidat des banquiers ?
Monsieur Macron.
Ah, vous pensez que c'est pour ça qu'il est candidat ?
Ah oui.
Emmanuel Macron, candidat des banquiers ?
C'est être réductionniste, je crois qu'il ne faut pas faire toutes ces images. Il est candidat de Silicon Valley, ça oui. Il est candidat de...
Et c'est mal ou c'est bien ça ?
C'est mal. C'est mal, parce que Silicon Valley, c'est une opération aux États-Unis qui était financée en partie par l'armée. On a pris des gens qui étaient créateurs, qui étaient autour de Berkeley.
Steve Jobs a été financé par l'armée.
Oui, bien sûr qu'il a été financé par l'armée, pas Steve Jobs lui-même.
Mais que la France toutes les opérations qu'ils ont lancées,
plus par des milieux financiers de Wall Street. Sans ça, ils ne seraient pas démarrés. Il n'y aurait pas eu de Silicon Valley. Alors, Silicon Valley, c'est une très bonne chose. Je suis pour le numérique, je suis pour la robotique, je suis pour la 3D, je suis pour toutes ces technologies du futur. Mais pas associées à la finance, parce que le danger devient très grand. Si GAFAM avec Microsoft, garde le pouvoir, ils ont des plans avec le numérique, ils appellent ça, eux, la guerre cognitive. On l'a vu avec l'élection d'Obama et celle de Trump. Pareil. Robert Mercer, qui est un des conseillers d'Obama,
a manipulé les choses. Vous pensez qu'il y a une sorte de super complot dans lequel il y a un plan pour faire élire des dirigeants ?
Alors, ce n'est pas un super complot. C'est simplement l'utilisation de ressources qu'ils utilisent à leur escient pour contrôler les choses. Ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs. J'ai ici le rapport, je vous l'ai amené, de Cambridge Analytica, qui dit très clairement, le groupe s'est spécialisé au niveau le plus élevé, celui de l'OTAN, du ministère de la Défense britannique, du département d'État américain, dans la modification du comportement de groupes importants. Ils modélisent les populations, puis refaçonnent leurs convictions. Ça existe, c'est comme ça, et on l'a vu.
Tous les gens qui bouleversent le monde sont suspects de calculs épouvantables.
Non, ça, ils ne sont pas suspects, ils disent eux-mêmes qu'ils le font. Ils sont très contents de le faire, ils sont très fiers d'eux.
Parce qu'ils ont
y arrivent, c'est bien.
Ils ont aussi amené beaucoup de choses, beaucoup de bien-être. La modernité, c'est aussi eux qui l'ont amené.
Oui, à condition que l'État ne soit pas soumis à la monnaie. Georges Boris, le conseiller de Mendès France et de la France libre, je le cite toujours, mais c'est important, il disait « Si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. » Et malheureusement, l'euro a servi de relais à ce contrôle par la monnaie.
Faut sortir l'euro, de l'euro.
C'est plus du tout l'euro de Jacques Delors.
Faut sortir de l'euro.
Oui, il faut sortir de l'euro pour créer un choc, comme De Gaulle l'avait fait.
Ça risque de créer un choc.
Comme De Gaulle l'avait fait avec la politique de la chaise vide. Tout le monde poussait des cris à l'époque, et De Gaulle avait dit, il y a ceux qui disent Europe, Europe, Europe,
il comme
des
cabris,
mais
ça concerne
moi, je suis
pas
le vrai
ça.
Européen.
On n'avait pas changé de monnaie,
c'était vrai.
Il l'avait pas fait sur l'euro. Hein.
Non, non.
C'était sur toute autre chose. Ça n'avait même rien à voir avec l'euro.
C'est la même chose. C'est une orientation vers la finance, c'est une orientation vers le court terme, et c'est une Europe qui n'est pas l'Europe. C'est une fausse Europe.
Certaines
la vraie Europe pense long, a des projets. Et pour moi, si l'Europe avait un sens, trois grands projets qui peuvent réunir les objectifs communs de l'humanité, c'est la politique de la mer, la politique de l'espace et le développement de l'Afrique.
J'ai loupé.
On était dans la sortie de l'euro.
Non, c'est important pour vous l'euro. C'est un discriminant dans tous les programmes.
Non, c'est pas discriminant en tant que tel. Ceux qui disent c'est pas l'Europe le problème, ils ont raison. Mais l'Europe est un problème parce qu'elle s'est soumise et elle a été un relais. C'est comme Emmanuel Macron, ce n'est pas un problème. Mais quand je l'ai rencontré à l'Élysée, il voulait faire la réforme bancaire, il ne l'a pas faite. Et à ce moment-là, les banques ont été reconnaissantes et voilà sa campagne.
Quand il était secrétaire général adjoint, vous l'avez rencontré à l'Élysée ?
Oui, bien sûr.
Il vous a reçu.
C'est un homme très aimable et très sympathique. Mais évidemment, il donne toujours raison au dernier qu'il rencontre.
L'euro, c'est très important. La sortie de l'euro pour vous, c'est important.
C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel.
L'essentiel,
c'est de créer un système de crédit public national qui puisse financer l'économie et créer de l'emploi. Si on n'a pas ça, on ne crée plus de l'emploi, on n'a plus un sens, on n'a plus un chef d'orchestre. C'est simplement avoir un chef d'orchestre responsable.
Est-ce que l'euro, c'est suffisamment important pour déterminer votre vote au second tour?
Non, ça ne sera pas suffisamment important. Je vois personne attaquant ce monde de l'argent, ce monde financier. Marine Le Pen, laissez-moi rire deux minutes, Bernard Monod, son principal conseiller, a dit qu'ils allaient s'arranger avec les financiers, s'arranger avec le marché, parce que lui avait été à la HSBC, une des pires banques, qui était la banque de la drogue de l'Empire anglais hein, dans l'histoire, et qui aujourd'hui, tant au Venezuela qu'au Mexique, n'a pas arrêté de blanchir l'argent
sale. Et donc
sale.
Macron, donc, dans l'hypothèse d'un duel Macron-Le Pen, vous faites quoi ?
Pour l'instant, je ne vote certainement pas pour Marine Le Pen. J'attends ce que dira Macron avant le second tour.
Mais vous pourriez voter pour lui ?
Non, j'attends ce qu'il dira. Pour l'instant, tel que c'est aujourd'hui, je vote blanc. J'attends le second tour. Mais vous savez, quand on dit ce qu'on fera pour le second tour, il faut surtout penser au premier. Je pense que ma candidature, pour aussi réduit que soit le vote affiché par les sondages, est très importante parce que je représente la possibilité, le catalyseur, pour une alliance contre ce système financier, contre ce système bancaire qui a le pouvoir dans le monde. Et cette alliance doit être faite à l'intérieur de la France, on peut appeler ça une alliance pour le développement, entre les entrepreneurs et, d'autre part, bien sûr, les travailleurs indépendants, les travailleurs dans le privé, dans le public. Et cette alliance doit être constituée. Et je pense que tous les autres candidats ne pensent pas en termes de cette alliance, ils pensent en termes de couvrir un créneau, d'avoir des gens qui les soutiennent. C'est comme Mélenchon quand il dit « je ne sortirai pas de l'Europe, je ne sortirai pas de l'euro », parce qu'il pense que 68% des Français ont peur et ne le veulent pas. Donc il essaye d'aller après un électorat. Les autres, pareil.
Hein.
Donc il faut faire cette alliance, et cette alliance aussi dans le monde. Il faut faire une alliance pour le développement dans le Monsieur monde, Cheminade. Dans laquelle on amène les États-Unis et on amène tous les pays des BRICS.
Brièvement, tout autre sujet, dans votre programme, vous préconisez l'interdiction des jeux vidéo violents, avilissant la personne humaine et où le mot le plus souvent répété est mort. Est-ce que c'est pas un peu une vieille
lune ? Alors là, j'ai une bonne relation maintenant avec les gamers. Parce qu'à partir de là, on a réussi. Vous savez, toujours un peu de provocation permet une bonne relation.
C'est de la provocation, donc.
Oui, bien sûr, je suis un provocateur.
Donc vous voulez pas
du tout. Parce que je veux qu'il y ait un dialogue. Et aujourd'hui,
donc c'était faux. Vous voulez
pas
interdire. Dans votre programme, ce que vous écrivez.
Il faut provoquer un peu pour.
Donc vous ne pensez pas ce que vous écrivez.
Non, on peut pas les interdire parce que les serveurs sont un peu partout dans le monde. Si on peut les interdire à la vente à la Fnac, on pourrait. Mais je pense que.
Le programme, c'est l'interdiction.
L'idée, aujourd'hui, c'est de voir l'ultra-violence. Et l'ultra-violence, elle est partout. Elle découle de cette cupidité dans le système financier, dans le système monétaire. On y revient, mais il faut y revenir toujours, parce que c'est là qu'est le vrai pouvoir, associé à GAFA, associé au numérique. Donc c'est au-dessus des États, hein, ce pouvoir-là. Et j'ajouterais, sur ces jeux vidéo, qu'il y en a de très bons. On m'a renseigné,
donc,
moi.
J'ai pas bien
je disais
compris,
Civilization
si
5, on m'a parlé de Civilization 6, bien. Qui est encore plus intéressant.
Vous jouez aux jeux vidéo ?
Je regarde de temps en temps, oui.
Vous les interdire, mais vous jouez.
À mon âge, vous savez, il n'y a pas de jeu interdit. Hein.
Quel jeu
vous jouez ? Ah, c'est intéressant, ça, quand
même. J'ai regardé Civilization 6, j'ai regardé Super Odyssey de Mario qui vient, j'ai regardé Mario, j'ai regardé un peu ces choses-là. Il faut savoir comment les gens pensent, comment ils réagissent aujourd'hui. Il faut le savoir.
Si on sait pas.
Il y a des jeux. Il y a des jeux très intéressants de terraformation, de planètes ou de constitution de villes. Il y a tous des jeux très intéressants. Et je pense que toute la création qui est dans ce pays est latente, pourrait être amenée, y compris dans ce domaine-là. Mais alors. En éliminant ce que les jeunes appellent la chancla. La chancla, c'est n'importe quoi.
La chancla.
La chancla.
Ah ben, vous m'épatez totalement.
Allez, Nawak.
Il est 8h51, on a perdu une minute avec la chancla. Voici Victor Maté pour l'essentiel.
Et la campagne présidentielle se poursuit sous haute sécurité après l'annonce de l'attentat déjoué. J-4 avant le premier tour. Meeting hier soir de François Fillon à Lille, de Benoît Hamon à Toulouse et de Jean-Luc Mélenchon à Dijon et en hologramme dans 6 autres villes. Les deux hommes interpellés hier matin à Marseille se préparaient à mener une action violente de manière imminente. A précisé le procureur de Paris, François Molins a détaillé l'arsenal retrouvé dans l'appartement des deux hommes de 23 et 29 ans. Un fusil mitrailleur, deux armes de poing, plusieurs chargeurs et au moins 3 kilos d'explosifs. Des élections législatives anticipées en Grande-Bretagne. Ce sera le 8 juin, dans 2 mois, 3 ans avant la date initiale de 2020. La première ministre Theresa May entend ainsi renforcer sa majorité pour mieux négocier le Brexit. Les députés britanniques doivent valider ce choix en début d'après-midi. Un triplé de Cristiano Ronaldo, désormais 101 buts en Ligue des Champions. Record absolu, le Real Madrid qualifié pour les demi-finales de cette Ligue des Champions de football en éliminant le Bayern Munich. 4 buts à 2. L'autre club de Madrid, l'Atlético, est aussi qualifié ce soir. Place à Monaco, match retour des quarts de finale contre Dortmund.
France Info. Jacques Cheminade est avec nous ce matin sur France Info jusqu'à 9h. Et la question, c'est vous, Guy Birenbaum.
Vous avez eu, le lendemain du fameux débat à 11 sur TF1, une formule qui nous a beaucoup intéressés. Je crois que c'était au Havre et on va vous écouter. Avec vous riez déjà. On vous écoute.
Bah on écoute d'abord.
Ça fait rire Benoît. Bon. Excusez-moi, si vous voulez une expression un peu, qui fera pchit, je ne sais pas si j'ose la dire. J'avais l'impression d'assister, un peu comme dans cette campagne présidentielle, au lieu d'une réflexion, au lieu d'un projet, à une suite d'éjaculations précoces.
Une suite d'éjaculations précoces.
1 minute 30, c'est pas beaucoup, hein. Pour
ah, ça fait long pour une éjaculation précoce, pardonnez-moi.
Non, selon moi, la conception de la chose, non. Non, soyons sérieux.
Oui.
C'est vrai, on ne laisse pas aux gens les temps de se concentrer. Moi, je crois qu'il aurait fallu recevoir les candidats, pas comme dans le confessionnal de France 2, 15
c'est
minutes.
C'est ce qui va se passer
une heure chacun pour décortiquer la bête. Et ça, c'est plus intéressant, où on voit plus en profondeur. Ce qu'a fait Jean-Jacques Bourdin est très bien.
Salut Jean-Jacques Bourdin.
Oui, je salue Jean-Jacques Bourdin.
Très bien. Merci. Merci
avec
Bruy.
Sa façon de travailler, sa façon de faire. Je vous salue vous aussi, parce que c'est
long. C'est gentil. Non. On vous remercie.
Donc, vous voyez, je peux même dire du bien des journalistes.
C'est extraordinaire.
Parce qu'ils font leur métier.
Mais vous avez l'impression.
Pas lorsque moi, merci à Canal Plus l'autre fois.
Oh, c'était en 2012.
Il y a presque pire.
C'est inscrit. Oublions le passé.
C'était la Chancla en 2012.
Il y a presque pire.
Faisons table rase.
Je ne recueille pas tout vertige du passé lumineux.
Vous avez l'impression de ne pas avoir pu vous exprimer suffisamment.
Ah, cette fois-ci, non.
Ou exposer votre
projet. Cette fois-ci, les choses ont changé parce que il y a une attention plus grande aux idées. Et on sait très bien, les journalistes sont des gens intelligents. Ils savent très bien que les Français en ont marre de l'entre-soi politique. Donc ils veulent voir autre chose. Et les Français, cependant, ne sont pas encore dans le futur et dans les hommes qui représentent un futur et un avenir. Aujourd'hui, les gens qui sont en place sont les expressions achevées ou plus ou moins achevées du système. Macron est une expression du système, Marine Le Pen en est une, Fillon aussi.
C'est la trouvaille de 2017, le système. Hein.
Oui, mais c'est le système, ça m'énerve, parce que les gens ne voient pas et ne voient pas ce que ça veut dire. Et le système ne règne pas partout. La preuve, je suis ici. La preuve, j'étais sur France 2 ce matin.
Donc, parce que tout c'est quelque chose système,
qui a des ouvertures. Définir, mais il y a un système dans ce sens qu'il y a un conformisme. Moi, je préfère un conformisme.
Pourquoi ne faites-vous pas davantage de meetings à ce moment-là?
Parce qu'on n'a pas l'argent. 400 000 euros pour une campagne, c'est un meeting de Macron. Nous, on a 400 000 euros en tout.
Des petits meetings de proximité.
Dans ce que j'ai fait hier, un meeting sur
Internet.
Le web.
Oui, ça s'est bien passé.
Vous savez combien vous avez écrit?
Oui, il y avait 110 personnes dans la salle et j'ai pas vu combien il y en avait en tout qui avaient assisté. J'ai pas regardé. Franchement.
Gilles Manchelin.
Une question sur une réforme de ce quinquennat dont on a beaucoup parlé, le mariage pour tous. Alors, c'est n'importe quoi? C'est du chancla ou c'est une des grandes réformes du quinquennat?
C'est quand même étonnant qu'on discute de ça alors que je ne savent même plus ce qu'est le mariage. Moi, je suis marié à 75 ans, je sais ce qu'est le mariage, c'est la fidélité. La fidélité dans le temps, la fidélité à certaines choses. Donc,
mais
cette
le mariage
question
homosexuel
fidélité,
n'exclut pas la fidélité.
Oui, ça n'exclut pas la fidélité, en effet. Donc, s'il y a des gens qui tiennent dans la communauté homosexuelle un mariage, oui, parce que il y a une fidélité, mais il faut leur donner à ce moment-là la responsabilité des enfants qu'ils vont avoir. Parce que je pense qu'il y a des homosexuels qui peuvent beaucoup mieux élever les enfants, parfois, pas toujours, que des hétérosexuels. Donc il faut voir les enfants. Et pour moi, ce qui est important, c'est de voir les enfants, ce que deviennent les enfants. Et là, il y a une attention, disons, je dois dire, relativement faible à cela, dans un monde où à Paris, à peu près, je dirais, 55% des enfants naissent hors mariage. Donc, il faut voir comment on peut créer une société qui accueille ses enfants, ceux qui sont nés en mariage ou hors mariage. Par exemple, je suis contre, la PMA, on arrive à un moment où on ne peut pas l'exclure, on peut exclure des femmes, la donner à certaines ou pas d'autres. Mais la GMA, non.
La GPA, non.
Mais les enfants qui sont nés sous GPA à l'étranger, on doit leur donner notre nationalité. On ne peut pas les exclure. Je suis contre l'exclusion. Mais je suis pour les principes.
On avance.
Vous avez été candidat en 2012. Vous aviez recueilli 89 000 suffrages, 0,25% des voix. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois ce sera différent? Parce que les sondages ne sont pas très généreux avec vous.
Non, ils sont pas très généreux.
Qu'est-ce qui vous fait penser que
les sondages sont de à peu près 50% des gens. Il y a 35% qui sont encore pas décidés. On n'avait jamais vu ça. Et 15 à 20%.
Ça baisse.
Enfin,
monsieur Cheminade.
Et 15 à 20%.
Mais en 2012, les sondages vous donnaient 0,50 et vous avez fait 0,25.
Je ne crois pas que ce soit le poids. Non. non, il y en avait qui donnaient moins. Donc je ne pense pas, il faut être honnête. Je ne pense pas que ce soit le poids des sondages qui détermine la vie et l'avenir. Ce que je pense, et à certains moments, c'est l'effet catalyseur, où une toute petite chose permet qu'une réaction chimique se réalise ou pas.
Et vous êtes toujours en attente de la réaction chimique.
Oui.
Guy Birenbaum. Que faites-vous entre deux élections présidentielles, Monsieur Chauminade?
Je suis reçu, par exemple, par certaines municipalités, par certaines personnes intéressées, sur la réforme bancaire. Aujourd'hui, malheureusement, cette question financière s'est évanouie. L'Obs l'a constaté en disant que personne n'en parle. Ben, moi, j'en parle. Et parce que c'est pour moi une question absolument essentielle. Et ça détermine notre avenir.
Vous travaillez? Vous avez un métier?
Écoutez, vous avez vu mon âge. Ça serait pas très raisonnable. J'ai 75 ans. J'en ai pas l'air souvent, mais j'ai cet âge-là. Donc, je suis un retraité. Mais, j'ai eu un métier qui était de représenter la France, l'administration française, dans différentes instances, dont à New York, où j'ai vu ce qui se passait dans le système financier.
Mais monsieur Chauminade, très
rapidement. Dans la sous-culture.
Mais monsieur Chauminade, qu'est-ce que ça provoque chez vous comme émotion de vous présenter à l'élection présidentielle? Je vous demande ça parce que 95, puis échec des signatures en 2002-2007, et puis 2012, il y a quelque chose entre vous et les présidentielles. C'est pas possible d'en avoir autant envie.
Non. Il y a l'argent, c'est-à-dire dans une présidentielle, entre autres, dans une présidentielle, les gens sont attentifs. Et l'État, si on a laissé un sans signature, prend en charge le bulletin de vote, les professions de foi et les affiches. Dans les autres élections, non, dans les législatives, non. En Suisse, ils le font. En Suisse, si vous avez un certain nombre de signatures, l'État prend en charge les législatives. Et là, on aurait eu beaucoup plus de candidats à la législative, c'était le cas en France.
C'est une financiarisation de la vie politique qui, visiblement, vous va bien. Merci Jacques Chauminade d'avoir accepté l'invitation de France.
C'est pas une financiarisation de la vie politique. C'est fini. C'est la finance qui pèse sur la vie politique.
C'est
vous devez savoir.
C'est fini.
Une dernière chose.
C'est fini.
Honnêtement. Merci beaucoup.
Et on se retrouve
2022.